Vous écoutez le podcast de Mon Prochain Emploi, le premier podcast qui s'adresse aux femmes cadres ou en devenir dans le domaine du salariat et du recrutement. Bienvenue. Je suis Lingo Laza et je suis ravie de partir pour une belle aventure avec vous. À la découverte de femmes pour discuter de leur parcours, de leur réussite et de leurs difficultés. Et également pour interroger des expertes sur des sujets autour du salariat, du recrutement et du monde des entreprises. Un nouvel épisode sera publié deux fois par mois, les lundis à l'heure du déjeuner. Pensez à vous abonner. Pour vous aider à trouver votre prochain contrat de travail, vous pouvez dès à présent mettre en place vos premières actions à l'aide de l'e-book « Les 10 points à vérifier avant de démarrer votre recherche d'emploi » grâce au lien dans les notes. Si vous connaissez des femmes qui en ce moment s'interrogent sur leur avenir professionnel, partagez avec elles l'accès à ce podcast. Profitez-en pour mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez en ce moment. Mille merci à vous de nous rendre visibles. Pour répondre mieux à vos attentes, je vous invite à laisser vos commentaires dans le lien du sondage que vous trouverez dans les notes de l'épisode. 5 minutes pour 15 questions. Aujourd'hui, je reçois Pauline Lebouleux. Elle est membre de l'équipe du village Baïsia, près de Nancy. Elle nous parle de son parcours de salarié, de ses choix, ce qui l'ont amené à s'occuper de la publicité, de l'événementiel, de développer un portefeuille client. Si les premiers contrats étaient à durée déterminée, elles se sont désormais bien installées dans l'innovation. En effet, elles s'occupent d'un lieu qui accueille des startups orientées innovation, un thème qu'elles souhaitent garder. Je vous invite à découvrir comment elle est arrivée à conseiller en communication, peut-être de futures licornes. Écoutez et découvrez pourquoi il faut accumuler ces expériences pour que cela vous amène sur le bon chemin. Bonne écoute.
Bonjour Pauline.
Bonjour.
Comment te sens-tu?
Bah écoute, très bien, très bien installée, confortablement, et puis période estivale est plutôt sympa, même au boulot en fait.
Oh bah c'est parfait. Pauline, on va commencer par les trois questions que je pose habituellement à mes invités. Alors la première, c'est est-ce que tu peux me citer trois prétextes à discussion pour entrer plus facilement en contact avec toi? Ça peut être des mots ou des expressions qu'on pourrait utiliser si on te croisait dans une soirée de networking, par exemple, pour engager la conversation avec toi.
Généralement, c'est plutôt dans des événements type after work ou réseautage. Et les premières questions qu'on me pose, c'est plutôt où je travaille. Et ça enclenche d'autres questions quand je parle du village Baïsia. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Oui. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que tu fais au quotidien, etc. Et après, je parle des startups, donc forcément, ça enclenche d'autres questions.
D'accord. Bah, écoute, je propose qu'on développe ça un petit peu plus tard, puisqu'on va effectivement parler de ton métier aujourd'hui. La question suivante, est-ce que tu as eu un mentor? Et si oui, comment est-ce que tu l'as trouvé?
En y réfléchissant, je n'ai pas vraiment eu de mentor personnifié par quelqu'un en particulier, mais plutôt des conseils que je pioche à droite, à gauche,
oui,
où je me fais un peu mon propre patchwork, je dirais. Donc, c'est plutôt des personnes que j'ai rencontrées au fil de l'eau, alors pas forcément dans le monde professionnel. Hein. Mm-hmm. Je me souviens encore de mon instituteur en CM2, avec lequel j'ai gardé contact, merci Facebook, qui lui a été, tu vois, important dans mon parcours de jeune écolière, et au fur et à mesure, il y en a eu d'autres comme ça, mais pas un mentor en particulier, tu vois, un ou une mentor, mais plutôt des conseils que je pioche et que je garde près de moi.
Très bien. Quelle est la dernière décision difficile que tu as eu à prendre sur le plan professionnel?
Il y a des décisions qui m'ont été imposées. On en reparlera peut-être tout à l'heure en termes de licenciement économique. Alors donc là, forcément, tu enclenches une période un peu où tu vivotes un petit peu, où c'est l'occasion de te poser, de réfléchir. Donc, c'est plutôt des contextes qui m'ont été imposés. Mais ce n'était pas forcément des décisions difficiles parce que ça m'a amené vers d'autres opportunités. Bon, après, je ne sais pas, ça m'est déjà arrivé de refuser des postes. Oui, il y a 4 ans, j'ai refusé un poste, oui, un autre poste. Mais ce n'était pas une décision difficile, tu vois, c'est une décision réfléchie qui était liée à mon contexte aussi familial de l'époque, mais sans regret.
D'accord.
Tu vois, mais ce n'était pas forcément difficile, c'est plutôt des choix.
Très bien, non, on a le droit de choisir et justement de faire en fonction de ce qu'on souhaite faire. écoute, j'aimerais bien qu'on puisse du coup regarder un peu sur ton parcours, parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles je souhaitais t'avoir sur le podcast. Oui. Si j'ai bien compris, tu as démarré donc une formation en commercialisation et métier de la pub. C'est comme ça que tu as démarré professionnellement.
Oui. J'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et au final, ce qui me plaisait le plus dans cette formation, c'était plutôt les blocs marketing et communication.
Oui.
Et chose que j'ai validée pendant mon stage d'études, où j'avais fait un stage vraiment type commercial et je m'étais dit que c'était pas trop pour moi, c'était pas là-dedans que je m'épanouissais. Du coup, j'ai fait une licence métier de la publicité et c'était la première promotion. Donc, c'était vraiment comment travailler en agence de pub.
D'accord.
Comment y structurer les espaces publicitaires dans tous les médias et comment on construit des campagnes de publicité.
Tout type de médias, de télé, presse.
Alors, quand j'ai fait la formation, c'était en 2006. Donc, il y avait les médias traditionnels que tu viens de citer.
Oui.
Et il y avait un petit peu de médias digitaux.
D'accord.
Mais c'était encore à la marge, finalement. 2006, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Bah, oui, un petit peu quand même. Mais du coup, on parlait un tout petit peu de publicité web. À l'époque, c'était les bannières sur les sites internet, etc. Et c'était pas géolocalisé. Enfin, voilà. On était quand même un peu loin.
Au balbutiement, oui.
Oui, voilà. Mais c'était beaucoup pour les médias traditionnels, mais comment faire une campagne de publicité globale.
D'accord. Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans ? Le côté créatif, le côté stratégie commerciale ?
Stratégie commerciale, construire un plan de communication et l'ajuster en fait suivant les retours. Mais comme je disais, à l'époque, c'était vraiment des médias traditionnels, donc avec des retours après campagne, des retours qui n'étaient pas forcément quantitatifs. Donc c'était plutôt avoir un objectif ou même définir un objectif de communication et construire une campagne derrière.
D'accord. Et du coup, après, tu as pu trouver facilement un travail avec suite à cette formation-là ?
Oui, alors j'ai trouvé facilement un travail finalement, mais pas du tout en lien avec ma dernière formation. C'était suite à un job d'été où en fait, ils ont voulu me garder. Donc c'était, ça existe encore, mais plus en physique, mais c'était paru vendu.
D'accord.
C'est les journaux papier.
Oui.
On pouvait passer des petites annonces pour vendre un meuble, une voiture, une maison, une canne à pêche ou que sais-je.
Oui.
À l'époque, c'était papier.
Effectivement. On voit qu'on est le bon coin que tout le monde connaît aujourd'hui.
Ouais, voilà. Donc, j'ai travaillé en fait dans le réseau paru vendu. On avait aussi le site internet et c'était gratuit. Tu mettais une annonce sur le papier et c'était gratuit sur le site internet.
D'accord.
J'ai travaillé là-dedans en fait, mais tout de suite après ma licence, quoi, j'ai mis ma licence en juin et en septembre, j'étais en CDD chez eux. Je m'occupais de la clientèle particulière. De fil en aiguille, ils m'ont proposé un autre CDD pour m'occuper des professionnels. Où là, j'ai plus été attirée par cet échange avec le B2B finalement. Après, ils m'ont proposé un CDI donc, en Alsace, à Strasbourg.
Et tu es partie là-bas pour quelques temps.
Je suis partie pour 4 ans, 4 ans et demi même, quelque chose comme ça. Où en fait, j'ai travaillé à Strasbourg, à Guenot, à Colmar, à Mulhouse. J'ai fait vraiment tous les deux départements de l'Alsace, toujours avec paru vendu. Et à un moment donné, on sentait qu'il y avait quelques turbulences. Tu parlais du bon coin. Donc oui, il y avait le bon coin qui commençait à s'imposer uniquement sur le web. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais grosso modo, ça a mis un gros coup dans le groupe, en tout cas dans le réseau paru vendu, qui a commencé à restreindre ses heures d'ouverture, à augmenter un petit peu les tarifs papier, à trouver d'autres relais de croissance ou ce genre de choses, jusqu'à enclencher des plans sociaux, etc. Donc, moi, c'était ma première expérience professionnelle. Donc, ça faisait 4 ans que j'étais chez eux. Et donc, du coup, j'ai vécu aussi cette période un peu en jeune active de turbulence.
Ça représentait combien de personnes dans le groupe ? Parce que là, tu parlais des deux départements de l'Alsace dans lesquels tu étais, mais le paru vendu existe dans quasiment tous les départements de France.
Ah ben oui, c'était presque 300 points de vente. J'ai plus les chiffres en tête, hein, mais 300 points de vente avec des équipes moyennes de 8 à 10 personnes dans chaque point de vente. Donc c'était assez énorme. Hein. Au fur et à mesure, ils ont fermé des points de vente dans les villes moyennes. Enfin, tu vois, une stratégie, une typologie de la sorte. Mais au fur et à mesure, on sentait que voilà, les départs en retraite n'étaient pas remplacés. Enfin, tu vois, c'était ce genre de choses qui sont un peu classiques, entre guillemets, mais que je vivais pour la première fois. ou des collègues qui étaient là depuis très très longtemps savaient à peu près à quoi s'attendre, alors que moi, je vivais ça pour la première fois. Donc, en fait, c'était une ambiance très, très compliquée à vivre au quotidien, point, en fait, d'en être malade, hein, tu vois, de ressentir ça dans ta sphère personnelle. Enfin, c'était assez, assez compliqué.
C'est une situation angoissante qu'on peut bien imaginer, effectivement, pour des questions sur l'avenir que tu pouvais avoir.
Oui, oui, c'est ça. Surtout que moi, je montais dans l'échelle, finalement. J'avais de plus en plus de responsabilités. J'étais devenue formatrice auprès de mes collègues sur les nouveaux produits, justement, qu'on essayait de vendre ou ce genre de choses. J'étais très mobile à l'époque. Donc, moi, j'avais même un projet... De partir sur le journal, donc le paru vendu à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, tu vois. Je m'étais dit, ben tiens, c'est l'occasion. Et puis bah, finalement, ça ne s'est pas fait. Quoi, bah, pas toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant. C'était plus d'actualité, mais en fait, je l'avais noté, tu vois, dans mon entretien annuel, j'étais toute contente. Je me disais, ouais, je vais faire un an et demi là-bas. Voilà, t'es jeune, t'es célibataire, t'y vas, quoi.
Bah oui.
Finalement, ça ne s'est pas fait. Bon, bah voilà, c'est comme ça.
Et du coup, tu quittes le groupe une fois que toute cette turbulence a commencé quand même à montrer leur issue, en fait, c'est ça?
Bah, c'est ça, il y a eu plusieurs plans sociaux. Et, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'était sous forme de volontariat. Il y avait une partie qui était sous forme de volontariat. Et du coup, à un moment donné, je me suis présentée, quoi. Je me proposais à partir, alors dans des conditions sympas aussi, d'accompagnement, etc. On ne te lâche pas comme ça non plus, pas à la rue, mais on ne te lâche pas comme ça, quoi. Il y avait quand même des choses qui avaient été négociées par les syndicats.
Et est-ce que tu savais, là, quand tu vois que les collègues commencent à partir, toi, tu te dis que tu vas aussi être dans le prochain wagon. Est-ce que tu te poses déjà la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas rebondir ou... Tu dis bon.
En fait, je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion de recentrer en fait mes envies, bien avec ma formation dans la publicité. Du coup, je le vois plutôt comme une opportunité, surtout que, comme je disais, j'avais quelques mois devant moi pour voir venir toquer à la porte de Pôle Emploi, etc. Donc, du coup, j'ai plutôt fait comme ça. Et là, ce que j'ai fait, alors c'est beaucoup de candidatures spontanées, et puis d'aller voir même, tu sais, donc j'étais à Colmar à l'époque. Oui, Colmar. Du coup, j'ai ratissé Strasbourg et Mulhouse en agence de pub, etc. Mais j'avais fait même du porte-à-porte, tu vois, avec mon petit CV et tout. et finalement, j'avais quand même pris un job un peu alimentaire parce que j'aime pas rester inactive. Donc, j'ai travaillé au Décathlon. Rien à voir, mais il me fallait quelque chose, quoi. Même si j'avais une rémunération, je dirais, convenable pour mon quotidien. Je voulais quand même faire un petit contrat. J'avais un petit contrat de 30 heures, enfin, tu vois, quelque chose comme ça, pendant 3 mois, quoi. C'était vraiment tombé pendant l'été. Tu vois, c'était un petit job d'été, on va dire. Et en parallèle, je faisais mes candidatures. C'est une candidature spontanée qui m'a mis sur d'autres rails. Première fois de ma vie qu'une candidature spontanée fonctionne, d'ailleurs.
Alors, du coup, juste pour bien comprendre, tes candidatures spontanées, tu as sélectionné des entreprises dans lesquelles tu allais envoyer ou tu as fait de la masse, on va dire, un peu à tout le monde?
Alors, sur la zone géographique sur laquelle j'étais, donc l'Alsace, j'avais sélectionné toutes les agences de communication, de publicité, ceux qui étaient de loin ou de près en lien avec la pub. Et finalement, c'est Virgin Radio qui m'a contactée.
D'accord.
Virgin Radio à Mulhouse. Et je me souviens, j'avais envoyé ma candidature spontanée au nom de Europe 2, alors qu'ils avaient changé de nom depuis 2 ans, quoi. Donc, tu vois, j'étais un petit peu à la masse et finalement, ils m'ont quand même appelée.
Mais il faut dire aussi qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être à jour en termes d'informations sur les entreprises qu'il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de retrouver le nom de la marque et de l'entreprise qui va avec.
Ah ben, clairement, parce que je pense qu'en fait, les pages jaunes, ils n'avaient peut-être pas mis à jour la fiche des pages jaunes ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et j'avais envoyé bêtement l'entête de ma lettre comme ça, quoi. Mais bon, quand il m'a appelé, quand le responsable m'a appelé, il m'a dit « c'est pas Europe 2 qui vous appelle, c'est Virgin Radio. Mais si vous êtes toujours intéressé, on peut se rencontrer. » Je ne sais pas, banco, on y va. Et en fait, lui, il venait d'apprendre qu'une de ses collaboratrices allait partir en congé maternité et ma lettre était arrivée le matin même. Tu vois, c'était vraiment l'alignement des planètes. C'était encore une fois pour un CDD, mais là, je rentrais dans le monde des médias. Un peu plus fort, dynamique. Hein. C'était quand même sympa de travailler dans une antenne locale d'une radio que j'écoutais, enfin que j'écoute. Mm-hmm. Et du coup, en fait, je m'occupais, donc c'était un CDD de 7 ou 8 mois, je ne sais plus, où je m'occupais des jeux antennes, de trouver des partenariats avec des salles de musique ou des clubs sportifs, etc. Et je m'occupais de créer des jeux antennes pour des annonceurs et aussi de faire passer, de faire construire les spots radio qui annonçaient ces jeux antennes ou des concerts de musique. Et je faisais le standard quand il y avait, donc quand il fallait appeler pour gagner des places ou des trucs comme ça, ça c'était la folie. La folie, tu gères je sais pas combien d'appels en même temps, c'était assez costaud. Et c'était super sympa, c'était fun. T'allais vraiment au boulot, tu rigolais tout le temps, bah, t'écoutais de la musique tout le temps, t'avais en primauté certains hits des chanteurs de l'époque. Bah, c'était génial, quoi. C'était.
T'en gardes un bon souvenir, en tout cas, ça se voit, t'es souriant d'en parler.
Non, mais j'en garde un bon souvenir, tu m'étonnes. J'avais. Donc, je travaillais avec toutes les salles de musique et tout, donc qui t'invitaient à tous les concerts que tu voulais. Je faisais des conférences de presse avec le journaliste. Mais plutôt pour la partie promotion des spectacles ou des échanges sportifs, et tout, etc. Donc en fait, c'était génial, c'était juste top. Et je couvrais une zone qui était plutôt sympa, que je ne connaissais pas. C'était le sud de l'Alsace, c'est une partie de la Franche-Comté, quoi, Belfort, Montbéliard. Donc je voyageais un petit peu sur cette zone-là. Donc tu découvres, tu pars en déplacement et ton job c'était d'aller à des concerts quand même.
Oui, c'est vrai qu'il y a, plus difficile. Avant
c'est ça.
Le monde de la culture est sympa sur certains.
C'est ça. Puis pareil pour le cinéma. Pour te donner un exemple, on proposait donc des projections privées en fait à des annonceurs qui passaient des spots publicitaires sur la radio, des projections privées qu'ils pouvaient offrir à leurs clients. Et en fait, nous, on était en lien avec, par exemple, le cinéma Kinépolis à Mulhouse, par exemple, pour construire cet événement-là, choisir le film, etc. Donc, je me souviens, je m'étais occupée d'une projection privée de The Artist avec Jean Dujardin. Tu vois, en avant-première et tout, c'était quand même sympa. C'est des événements super sympas à piloter, à organiser et puis à vivre, du coup. Là, j'ai appris aussi un peu plus le côté événementiel.
Oui.
Événementiel, fun, je l'accorde, mais quand même la partie préparatif, etc., avant événement, pendant l'événement et après. Et là, j'ai adoré. J'ai adoré cette partie-là.
Je suis d'accord avec toi, le côté vraiment festif de l'événementiel comme ça. Moi aussi, j'adore. On oublie tout ce qui peut être charge et pression quand on a le moment où on se prend une shot d'adrénaline.
Ah ben c'est ça, oui c'est ça, c'est oui adrénaline c'est ça, c'est exactement ça. C'est des mois intenses, mais j'ai vraiment apprécié de bout en bout ce que j'ai fait quoi.
Et tu restes combien de temps du coup à faire cette mission-là, parce que tu disais que c'était en CDD.
Oui, c'était un placement de congé maternité qui a duré un peu plus longtemps que la durée de 6 mois classique. Donc ouais, je dirais 8 mois. Et après en fait, donc Virgin Radio fait partie du groupe Lagardère. Et du coup, donc là où j'étais, c'était pas forcément dans le groupe Lagardère, c'était une régie extérieure qui commercialisait les espaces publicitaires pour Virgin Radio et RFM. Mais du coup, il y avait quand même une passerelle qui était possible avec le groupe Lagardère et il y avait un poste qui se libérait à Metz, en CDI. Du coup, j'ai dit coucou. Est-ce que c'est possible de passer un entretien ? Parce que là, pour le coup, c'était un poste de chef de publicité. Donc là, on rejoint mes formations. Parce que pour le coup, c'était une partie commerciale, mais construire un plan de communication pour des annonceurs. Donc je m'en vais faire cet entretien, je ne dirais pas en mobilité interne, parce que c'était des structures différentes, mais il y avait...
Dans le groupe, en tout cas, voilà, comme tu disais, la passerelle...
dans une branche du groupe, on va dire. Et puis du coup, je passe un entretien, on me dit, ok. Donc je reviens en Lorraine.
Parce que tu es Lorraine d'origine, alors.
Ouais, je suis lorraine d'origine, donc je reviens en Lorraine pour un challenge, hein, parce que du coup, c'était vraiment en plus un poste de commercial. Il y avait des objectifs, etc. Mais en même temps, c'était construire, enfin proposer, on va dire, des plans de communication sur tous les médias qui appartenaient au groupe Lagardère. Donc en fait, c'était les radios RFM, Virgin Radio, Europe 1, le magazine Elle, Paris Match, Télé 7 jours, Arrêt Décoration, enfin, tout leur panoplie. Et à peu près pour chacun des médias, il y avait une géolocalisation. Donc pour la radio, c'était par ville. Et pour la presse, c'était par région Grand Est administrative. Là.
Et tu étais toute seule à occuper cette fonction ou est-ce que tu travaillais en équipe une fois que tu es passée dans ce groupe?
Oui, on était plusieurs en Lorraine à faire ça. Il y avait un bureau à Nancy à Metz. Et du coup, à Metz, on était trois commerciales. Et à Nancy, ils étaient quatre, quelque chose comme ça. Puis il y avait aussi des bureaux à Strasbourg, à Reims. Et chacun avait son secteur géographique. Donc, tu vois, voiture de fonction, enfin, la panoplie, quoi. Mais du coup, je venais avec mes petits magazines Elle. Ou Paris Match, ou ce genre de choses, où ma cible, mes clients, c'était tout ce qui était concession automobile, magasin de sport, bricolage. Donc là, c'était plus l'aspect commercial, mais il y avait aussi, on pouvait aussi proposer des événements de ce type roadshow, tout ça plutôt pour les concessions automobiles, du type flyer, ou ce genre de choses, et des espaces publicitaires sur. Beaucoup sur la radio pour ma part, un peu moins sur le print. Du coup, voilà, c'était un autre aspect, beaucoup plus sur la route et beaucoup plus remplir des objectifs commerciaux.
En tout cas, ça rejoint en fait ce que tu faisais au départ, qui était le côté effectivement commercialisation et le côté pub, les deux allaient ensemble dans cette fonction-là.
Oui, c'est ça. Finalement, je rassemblais un petit peu, je faisais ma petite boucle, voilà.
Et du coup... tu as changé ensuite? Enfin, combien de temps tu es restée? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de partir ou on t'a posé à partir? Je ne sais pas.
Y a eu pas mal de choses parce que finalement, moi, j'ai repris un secteur ou des dossiers qui étaient compliqués. Ça, je ne le savais pas. Hein. Quand je suis arrivée, en fait, j'ai vite compris que la personne d'avant faisait un peu n'importe quoi et proposait, par exemple, à tous les annonceurs, tu m'achètes une campagne... par exemple, d'une semaine sur la radio et je t'en offre deux, quoi.
D'accord.
Une achetée et deux gratuites, tu vois. Le truc...
Ah oui, donc en termes de rentabilité, c'était difficile de suivre après.
Ouais, ah ouais, c'est ça. Et puis du coup, moi j'arrive et puis les clients, ils étaient habitués à ça alors que c'était pas du tout dans l'esprit de l'entreprise. Et puis c'est pas rentable, hein. De campagne acheter une gratuite en opération été ou je ne sais quoi, je veux bien, mais...
Mais pas l'inverse.
Pas l'inverse et toute l'année, donc c'était un peu compliqué, donc il fallait un peu défraîchir tout ça. Et puis faire de la conquête client, prospection pure, par téléphone et sur le terrain. Et là, ça a coincé pour moi parce que j'étais pas du tout à l'aise avec ça.
D'accord. Parce que tu disais déjà au début, la partie commercialisation, c'est pas ce que tu préférais.
Alors, gérer un portefeuille client à faire... je sais pas, 20% ou même 15% de prospection, ça va. Tu vois, enfin, dans les tâches que tu fais au quotidien, tu n'aimes pas tout. Donc, moi, j'étais prête à l'accepter. Mais là, c'était 60% ou 70% de prospection, en fait. Parce que j'avais un objectif qui était assez haut par rapport aux affaires commerciales que je pouvais au contrat, qui venait un peu tout seul. Tu vois, qui... C'était un peu récurrent, quoi. Il fallait que j'aille taper des portes, comme on dit. Et là, en fait, je l'ai fait, hein, mais j'ai pas... Là, je me suis dit non. Tu sais, tout au fond de moi, je sentais... Non. Le soir, je rentre... Non, il y a un truc qui...
Il manque le côté satisfaite de sa journée, de sa mission.
Ouais. Ouais. Alors, je savais bien que j'allais pas retrouver l'euphorie et le fun que j'avais avant avec le poste que j'avais... chez Virgin Radio, ça je le savais bien. Là, je le sentais tout au fond de moi que ça n'allait pas. Mais je suis quand même restée 3 ans.
Oui.
3 ans et demi. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'une branche du groupe Lagardère, j'insiste bien là-dessus parce que le groupe Lagardère va bien, mais une branche du groupe Lagardère ont décidé de fermer des bureaux. Du coup, ils avaient décidé de fermer le bureau de Metz et garder celui uniquement à Nancy. Et que les personnes qui étaient à Nancy allaient faire aussi le secteur de Metz.
Du coup, il y avait doublons là et forcément...
Oui. Puis moi, j'étais la dernière arrivée. Donc, première partie, on va dire ça comme ça. Et à la limite, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, de toute façon, je me plaisais pas à 100%. Même si j'aime bien travailler avec des médias, construire des plans de com, réfléchir à une stratégie de communication, etc. Vraiment, l'aspect commercial m'a tuée, m'a asséchée, je dirais. Du coup, là, je suis plus repartie sur me dire, OK, qu'est-ce que tu fais ? Plus à une réflexion un peu plus profonde.
Tu te sentais en même temps sur un tournant ou tu te disais, est-ce que je peux quand même continuer dans la même veine ?
En fait, là, j'étais vraiment avec un point d'interrogation devant moi. Et pareil, en fait, j'ai pu avoir un accompagnement avec un cabinet de recrutement où là, j'ai demandé un accompagnement sur 6 mois. 2 fois par mois, je voyais une personne qui, pour le coup, m'a beaucoup aidée. Là, on parlait de mentor tout au début. Finalement, elle, je pourrais la compter parmi les gens qui m'ont impulsée, je dirais. Du coup, voilà, je suis allée la voir en disant, voilà ce que j'ai déjà fait, voilà ce que j'aime faire. Mais qu'est-ce que je peux faire, en fait ?
D'accord. Donc, un genre de bilan de compétences, en tout cas, faire le point sur ton parcours et puis réfléchir aux possibilités futures.
On n'a pas été jusqu'au bilan de compétences, mais voilà, des petits tests, tu sais.
Les personnalités.
Oui, voilà, mais pas jusqu'au bilan de compétences. Et au final, c'était plutôt sympa parce que elle m'a aidée, tu vois, à reconstruire mon CV, les lettres de motivation, enfin, c'est des personnes voilà, qui t'aident qui te font du coaching pour des entretiens ou ce genre de choses. Et elle me dit, là, il faut casser le profil commercial. Ça ne va pas être facile parce que c'est marqué en noir et blanc sur le CV et que généralement, ça va se voir tout de suite. Si tu veux plus aller dans la veine commerciale, il faut casser le truc complètement, quitte à reprendre un poste peut-être un petit peu sur un échelon un peu plus bas que ce que j'avais grimpé. Et du coup... Là, ce que j'ai fait, c'est plus une formation d'approfondissement en anglais professionnel dans l'objectif d'aller au Luxembourg.
D'accord.
Donc, j'habitais toujours à Metz et je m'étais dit, on va suivre l'exemple aussi. Enfin, y a aussi des opportunités là-bas.
Effectivement, il y a à peine 1 heure de train, donc c'est tout à fait possible avec plein d'entreprises internationales.
Du coup, j'étais plutôt partie pour là-dessus. Donc, j'ai refait de l'anglais intensif pendant plusieurs semaines. Couplé avec des candidatures, etc. Et puis, des MOOC que je faisais sur la communication un peu digitale aussi. Et finalement, j'ai trouvé un poste, alors pas du tout au Luxembourg, mais en fait, entre Nancy et Metz, enfin entre Nancy et Pont-à-Mousson même, dans une entreprise qui s'appelle Novacep, qui est une entreprise dans l'industrie chimique pharmaceutique.
D'accord.
C'était une mission intérim, mais d'assistante communication. Tu vois, quand je reparlais de descendre un peu plus bas dans l'échelon, là, on y était carrément.
Effectivement, par rapport à ce que tu as déjà pu faire et construire avant, c'est pas du tout le même niveau.
Ouais, mais en fait, ce que j'avais vu et les choses auxquelles j'étais confrontée avant de trouver cette mission intérim, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'envoyais ma candidature, à chaque fois systématiquement, on m'appelait pour un poste de commercial terrain.
D'accord.
Et non, je veux pas, non. En plus, même si tu l'écrivais noir sur blanc, c'est au-dessus du CV, voilà le type de poste que je recherche, le type de poste, pardon. Dans la lettre de motivation, j'avais passé du temps à la rédiger, etc. Paf, on m'a appelé. Je me souviens, j'avais même passé un entretien. J'étais venue à un entretien. Mon gars, il me dit combien vous faisiez en chiffre d'affaires. Je dis non, mais non. je m'en fous, en fait. C'est pas ça que je veux. Il me dit, mais sur votre CV, c'est ça. Je dis oui, mais en haut, c'est écrit là. La lettre, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est.
C'est vrai que comme ils prennent très peu de temps pour lire, ils vont aller prendre les mots-clés, puis par rapport à leur filtre dans le cerveau, ils choisissent, quoi.
Puis finalement, mon expérience chez Lagardère est la plus signifiante, finalement, par rapport à mes autres expériences. Donc, en fait, il fallait que je casse la dynamique. Parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Être en relation avec de la clientèle, oui. Vendre quelque chose à tout prix, non, tu vois.
Je comprends.
Et du coup, pour casser la dynamique, j'étais prête à faire un petit effort aussi, même rémunération, on ne va pas se cacher, sur vraiment reprendre un peu d'assistant de communication. Mais dans l'entreprise-là, il fallait être bilingue, être vraiment fluente en anglais.
D'accord.
Donc, du coup, je suis arrivée chez eux, donc dans une entreprise de chimie, pharmacie. Moi, mes cours de chimie s'arrêtaient à ce que j'avais fait au collège ou au lycée difficilement. Et en même temps, il fallait que je refasse toute leur charte graphique. Donc, ils avaient, donc pas au niveau graphiste, hein, mais plutôt réécrire leur brochure, le site internet, etc., avec tout leur support de communication, mm-hmm. en lien avec une agence de pub qu'ils avaient sélectionnée, qui était à New York.
D'accord.
Pourquoi, je ne sais, j'ai jamais trop su. Mais du coup, je travaillais un petit peu en horaire décalé, parce qu'il fallait que je m'accorde avec leur fuseau horaire.
Bien sûr.
Mais c'était super intéressant, mais un peu dur au début, parce que du coup, je relisais les documents et je travaillais sur des documents où je ne comprenais rien de ce qui était écrit dessus, en fait.
Oui, c'est du français, mais il y a tellement de mots scientifiques spécifiques que...
Non, mais en plus, c'était en anglais.
Ah, en plus.
C'était en anglais avec des termes scientifiques. J'étais dans l'équipe marketing com, où c'était quasiment que des docteurs en chimie, quoi, qui avaient une formation marketing.
Oui, d'accord.
Tu vois, Et donc, moi, j'arrive avec ma petite licence, en grosso modo, en métier de pub. Bon, en fait, j'ai appris plein de mots pour le coup, tu vois.
je comprends.
Mais c'était un peu compliqué. Fallait que je fasse un peu mes propres codes pour comprendre, en fait, de quoi il s'agissait. Donc, au tout début, j'ai un peu ramé. Et en même temps, c'était pour une mission de 4 mois. Donc, je m'étais dit, bon, est-ce que... je creuse beaucoup ou je fais juste ce qu'il faut. Enfin, et en même temps, ben voilà, j'ai plutôt creusé parce que j'aime pas faire juste ce qu'il faut. Mm-hmm. Et au final, ça m'a amenée à travailler 2 ans chez eux.
D'accord.
Renouveler la mission intérim, à passer en CDD, etc. Et je me suis occupée, en fait, ils m'ont mis en charge le lancement de leur premier intranet. Mm-hmm. Donc c'est un groupe, en fait, qui est présent sur les 5 continents. C'était 1200 employés. Du coup, il fallait adapter un intranet en 3 langues, en allemand, en français et en anglais, mm-hmm. prévoir une traduction chinoise,
oui.
et puis faire des catégories en intranet qui correspondent un petit peu à une culture mondiale.
Oui.
Tu ne pouvais pas faire quelque chose de franchouillard sur un intranet qui serait utilisé... Shanghai, quoi. C'est pas possible.
Effectivement, la situation est un peu étrange. À dire, toi, tu es basé à Pompée, donc dans l'agglomération nancéienne, travaillant avec une agence à New York, et puis devant parler à des gens qui sont basés en Chine, effectivement.
Mais c'était super intéressant. Alors, c'était vraiment super intéressant. Et je m'occupais aussi de la communication interne pour préparer à la mise en place de cet intranet. Donc c'était super intéressant. Donc je faisais de la communication interne à la fois en français pour les sites français, mais aussi en anglais. Mm-hmm. Et je me suis déplacée dans plusieurs sites en Belgique et en Allemagne, de plusieurs sites de Novacep, pour faire un peu la promotion de l'intranet. Il y avait aussi le cahier des charges au tout début. Au tout début, quand je suis arrivée sur le projet, le cahier des charges avec toutes les fonctionnalités avait été fait. Mais il fallait un petit peu valider ça sur le terrain. Mm-hmm. Parce qu'il y avait tout type de métier, en fait. Il fallait que ça corresponde à la plus grosse population possible.
Bah oui.
Donc, c'était super intéressant. C'était vraiment, vraiment top. Tout ça, donc, je suis remontée, j'ai remonté quelques échelons, mm-hmm. quelques barreaux sur ces 2 ans-là. Mais tout ça dans un environnement, je dirais, de contrat précaire.
Oui.
Donc, je te parlais d'intérim, de CDD, etc. Et en parallèle, je me suis mariée, tu vois, tu as d'autres projets personnels qui pointent le bout de leur nez, si tu vois me venir.
Oui.
Et du coup, on est quand même dans une société où tu as des contrats précaires, tu as des projets personnels, des fois ça ne matche pas.
Oui, en tout cas, il faut arriver à le construire un peu.
Après, si tu veux, il y a toujours un site Novacep à Pompée, mais les sièges centraux, enfin les services centraux, auquel j'étais rattachée, déménager sur Lyon. Mmh. Donc, j'avais fait pas mal de déplacements sur Lyon, mais du coup, ils me proposaient de renouveler un contrat encore en CDD, mais sur Lyon.
Oui.
Donc, là, c'est un peu compliqué à déménager sur Lyon pour un contrat de 6 mois, quoi.
Oui, c'est sûr, c'est pas envisageable.
Enfin, pas dans l'objectif personnel dans lequel j'étais.
Oui.
Du coup, ça s'est fini un peu comme ça. Au bout de 2 ans, mais j'ai appris énormément de choses. Et donc, j'avais, comme je te dis, j'avais remonté quelques barreaux mm-hmm. de l'échelle. Donc, j'étais plutôt contente.
Et qu'est-ce qui se passe alors, du coup, là, tu t'arrêtes de chez Novacep et tu ne pars pas à Lyon, tu restes ici sur la Lorraine. Comment tu rebondis?
Je reste ici parce qu'en fait, après, s'enclenche une pause parentale. Mm-hmm. Les dernières semaines où j'étais chez Novacep, en fait, je commençais une grossesse. Mm-hmm. Du coup, j'ai fait une pause parentale jusqu'à la naissance de mon enfant, de mon fils. Pendant cette pause, j'ai fait des formations de community manager, de rédaction web ou ce genre de choses.
Tu es retournée dans un centre de formation ou c'est des formations que tu as suivies en ligne?
Alors, formation, bah, j'ai fait les deux. J'ai fait des MOOC ou des choses comme ça. Et j'ai fait une formation dans un institut pour community manager. Parce que finalement, c'est ce que je faisais. J'étais chez Virgin Radio, chez Lagardère et chez Novacep, où je gérais la page Facebook, le compte Twitter. Mais j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais à l'époque, on ne parlait pas de community manager, et en fait. Et je me souviens même, chez Virgin Radio, j'avais un profil, quoi, un profil perso sur Facebook. Quoi. Ouais. Il n'y avait pas de page, enfin bref. Et du coup, j'avais acquis certaines compétences, mais je n'avais pas la formation qui allait en face. Oui. Et comme j'avais le temps, entre guillemets, j'étais à la maison en train de vivre sereinement ma grossesse, je m'étais dit, c'est l'occasion de t'inscrire à une formation. J'avais les droits d'IF, etc. Enfin, j'avais tout ce qu'il fallait. Du coup, je me dis, c'est l'occasion de mettre à profit le temps que j'ai. Donc, c'est ce que j'ai fait. Fait une formation vraiment certifiante community manager.
D'accord.
Après tout ça, bah, j'ai laissé passer un petit peu de temps avec mon bébé, quoi.
Pour t'occuper de toi.
Voilà, parce qu'il y a un boulot à plein temps, on pourra en discuter, mais c'est un boulot à plein temps aussi.
Ouais.
Et après, je recherchais plus des jobs de rédaction web, de community management, mais je voulais quand même aussi pas être tout le temps derrière un bureau.
Mm-hmm.
Voilà. Il me fallait quelque chose d'hybride, en fait. Au final, j'ai postulé, en fait, là où je suis, là, enfin, dans l'entreprise dans laquelle je suis, qui est le Crédit Agricole de Lorraine,
mm-hmm.
qui cherchait un community manager. J'ai envoyé une candidature, ils m'ont appelé, j'ai passé un entretien. Et en parlant de mon parcours, ils m'ont dit, on pense à vous pour autre chose. Pas pour ce poste, mais pour autre chose.
D'accord.
C'est un projet qu'on est en train de mettre en place, on peut pas trop vous en parler.
Ah.
Mais on pense à vous pour autre chose.
Très bien.
Bon, d'accord, ok. Et au final, une semaine après, il me rappelle, on parle un peu plus du projet. On voit une proposition d'embauche.
Avec le nouveau projet, du coup, alors.
Et donc là, je vais sur Internet et je tape Village by CA. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'avoue que j'avais pas trop compris.
Bah, tu n'avais pas eu beaucoup d'informations, donc forcément, tu as eu du mal à t'imaginer, te projeter.
Non, on m'a dit que voilà, ce serait un poste, une création de poste, et qui cherchait quelqu'un avec compétences en gestion de projet, en communication, en événementiel, et quelqu'un qui soit curieux. Enfin, beaucoup de personnes peuvent cocher des cases comme ça,
ouais.
Mais pour le coup, le parcours que j'ai eu leur a fait tilt pour ce poste. Ils n'avaient même pas réfléchi à l'annonce à faire paraître. Tu vois, c'était vraiment une idée qu'ils avaient, enfin un projet dans 6 mois, quoi.
Mm-hmm.
C'était pas un projet pour maintenant. Mais ils m'ont quand même envoyé une proposition d'embauche. J'ai fait un passage, en fait, au service communication du Crédit Agricole de Lorraine, le temps que le projet se mette un peu plus en place.
D'accord, ok.
Donc j'étais repartie, en fait, pour un CDD de 7 mois. Avec la possibilité derrière, en repassant un entretien, de prendre le poste que j'occupe actuellement.
D'accord.
Qui est donc chargée des relations start-up au village Baïséa Lorraine.
Donc, en fait, ce CDD que tu as eu au début a permis, en fait, de connaître...
Ce que j'ai fait pendant le CDD de 7 mois qui était top, c'est que j'avais... 60% du temps qui était dédié quand même au village Baïséa. Je suis allée dans d'autres structures qui existaient déjà pour être en immersion, construire un plan de communication, un budget de communication, parce que finalement, ce qui était top aussi, c'est que j'avais une feuille blanche.
Mm-hmm.
Alors, à la fois, j'avais une feuille blanche et à la fois, il y avait déjà une vingtaine d'autres villages Baïséa qui étaient ouverts.
D'accord.
Donc, j'avais 20 homologues à contacter, à benchmarker, à aller voir, etc.
Mm-hmm.
Mon CDD de 7 mois, j'ai fait ça. Connaître aussi l'écosystème innovation lorrain,
mm-hmm.
c'est pas du tout. Et en même temps, je faisais des missions, je dirais 40% de mon autre temps, c'était des missions pour le Crédit Agricole de Lorraine. Donc,
d'accord.
Connaître le groupe, qui n'est pas une mince affaire. Faut quand même, c'est un groupe avec pas mal de choses, etc. Et ce n'est pas qu'une banque. Moi, j'avais encore l'image d'une banque où c'est rigide, procédure, costard toute la journée. Alors, non. Non, il y a plein de choses et tout. Donc en fait, c'était plutôt intéressant parce que je naviguais entre deux gros sujets qui me permettaient d'appréhender en globalité le futur poste que j'ai décroché parce que finalement, il n'était pas pour moi. Une création de poste, et en création de poste, il faut quand même ouvrir en interne à tous les collaborateurs.
Mmh. En tout cas, tu avais ton parcours précédent et ce que tu as fait pendant les 7 mois ont quand même pu convaincre.
Oui, ça, forcément ça a joué en ma faveur, mais après, il fallait quand même une validation au plus haut de l'entreprise avant de dire oui, c'est moi.
En quoi consiste ton métier aujourd'hui? Parce que là, tu parlais de start-up, tu as parlé de communication, donc là, ça fait combien de temps? 3 ans, 4 ans que tu occupes ce poste-là?
Ça va faire 4 ans à l'automne. En fait, ce que je fais au quotidien, c'est un peu un nouveau métier. Donc, tu appelles ça chargé de relations start-up, start-up manager. Moi, je m'occupe aussi beaucoup de la partie communication, ce qui n'est pas le cas de tous les start-up managers. Mm-hmm. Et en fait, l'idée du village, c'est d'être un accélérateur de start-up.
D'accord.
Donc, soutenir des entreprises qui conduisent un projet innovant avec l'aide d'un réseau de partenaires. Donc, d'entreprises, que ce soit grands groupes, PME ou ETI, qui mettent à disposition du temps, leur carnet d'adresse et un peu du mentorat de compétences, je dirais, pour aider des petites start-up, entre guillemets, à grandir, à trouver des clients, à se faire connaître. Et en même temps, ça permet de sourcer de l'innovation.
D'accord.
Donc physiquement, en fait, on est basé à l'Axou. Donc c'est un bâtiment de 1600 m² où on est deux dans l'équipe, plus quelqu'un, un emploi en alternance ou stage. Mm-hmm. Mais l'idée, on est deux à faire tourner une machine, entre guillemets, de 15 startups actuellement et de 13 entreprises qui sont partenaires.
Ces startups et ces entreprises sont dans ce bâtiment que tu décris et les gens se côtoient au quotidien, travaillent au quotidien sur certains projets ou pas.
C'est ça. Sauf que les partenaires ont leurs propres locaux. Tu vois, on a Philips, ils ont un bureau chez nous, ils viennent de
D'accord.
temps en temps, mais
oui.
C'est plus une pépinière de startups, si je peux le faire un peu simplifier, dans lequel se croisent d'autres acteurs de l'écosystème de l'innovation et d'autres entreprises.
D'accord.
Et donc, l'idée, c'est d'animer un lieu comme ça, de le faire vivre, éclore et d'animer un lieu, parce qu'au début, quand on a ouvert en 2018, on avait 4 startups. Maintenant, elles sont 15. Mm-hmm. Donc, il y a une notion un peu d'onboarding, je dirais, d'animation, que chacun se connaisse, parce que l'idée aussi, c'est que les startups échangent, s'entraident, construisent des offres ensemble. Ça arrive qu'elles fassent une offre co-brandée, tu vois, ou qu'ils se fassent des contacts, ou qu'ils fassent un petit peu VRP de chacun, finalement, tu vois, après, suivant les affinités. Mais l'idée, c'est vraiment de l'émulation, créer de l'émulation. Donc, il y a cette partie-là. Donc, on rejoint un peu l'aspect événement, enfin, un peu beaucoup.
Oui.
Un peu moins ces derniers mois, un
c'est
peu bon. Frustrant, mais bon, l'aspect événementiel. Où en fait, entre 2018 et début 2020, on avait au minimum un événement par semaine. Un événement, alors ça allait du simple petit déjeuner à la conférence ou à l'afterwork. Là, on a accueilli des castings télé de la BFM Academy avec les équipes de BFM Business. On a fait des événements qu'on appelle des Business Connect, où en fait, c'est sur une journée, on regroupe des entreprises partenaires des villages avec des startups sur une thématique, mm-hmm. par exemple tout ce qui est cybersécurité ou tourisme ou ce genre de choses. Et chacun, en fait, en amont de la journée, choisit qui veut rencontrer qui.
D'accord.
Donc, c'est un peu du Tinder professionnel. Après, nous, on fait des matchs,
oui.
on crée un planning et c'est des spin meetings, donc des rendez-vous assez rapides de 15-20 minutes.
D'accord.
Et donc ça, on avait fait plusieurs journées comme ça. Ou si tu veux, sur une journée, tu as 130 rendez-vous. Tu as 80 personnes dans le bâtiment, t'as 130 rendez-vous et tous les 15 minutes, tac, ça change.
Ouais.
Toi, derrière, t'imagines, niveau organisation,
oui.
c'est un peu casse-tête. Mais c'est top, c'est super sympa. Puis sur la journée, tu prévois des temps de réseautage. Et puis, il y en a un qui n'a pas amené son planning, il faut lui donner l'info. Puis, attention, il y avait quelqu'un qui s'était pointé comme ça, qui avait vu l'invitation, mais qui s'était pas inscrit.
Oui.
Ah, mais en fait, j'ai pas de rendez-vous.
Non, parce qu'il fait...
Mais donc, du coup, tu lui trouves, il y a telle entreprise qui a un créneau de libre, tac, tu le passes. Ça, c'est des journées, typiquement le genre de journée que j'adore.
Oui.
Tu arrives le matin tôt, tu pars tard le soir, mais c'est vivifiant, c'est top. Et puis, les gens sont contents et tu vois qu'il y a des belles rencontres qui se créent, quoi. Donc, en fait, on faisait pas mal de choses comme ça. Là, on les fait toujours dans un format digital.
Oui.
Il y a toujours un aspect organisation, etc. Ce qui manque, c'est un petit peu le côté réseautage. Mais bon,
oui.
Ça, on est tous un petit peu en manque de tout ça, je dirais, en présentiel. Il y a beaucoup, je dirais, d'aspects événementiels dans le métier. Je m'occupe aussi de la communication externe du village Baïsé à Lorraine, donc se faire connaître sur le public visé, etc. mais aussi interne au sein du Crédit Agricole de Lorraine et interne au niveau groupe Crédit Agricole à part entière. Donc ça fait pas mal de missions, tout ça avec l'accompagnement des startups, que leur trouver des solutions ou leur présenter des clés pour qu'elles puissent avancer, et après à elles d'ouvrir les portes, tu vois. Mais l'idée, c'est de facilitateur.
D'accord. Et tu leur donnes un coup de main aussi sur la partie communication s'ils ont besoin, parce que du coup, quand on est en start-up, on est au démarrage, on a besoin de se faire connaître, on a besoin de...
Bah oui, c'est ça. Bah, c'est une des fonctions aussi du village. Tous les... Alors, pas les faire connaître, pas forcément au grand public, ça dépend de leur marché. Tu vois, mes contacts presse, partager des contacts presse ou parler d'une ou d'une start-up à des contacts presse, ça, je le ferai. Mm-hmm. Après, c'est les faire connaître, voilà, en parler d'elle à chaque fois que quelqu'un me dit oh, « bah, tiens, je cherche un truc », je dis bah, « attends, tu connais pas un tel ». Enfin, voilà, c'est ce genre d'action. Mais après, pour les startups, c'est régulièrement qu'elles me demandent de relire un plan de communication, un communiqué de presse, me demander ce que je pense de ci, de ça. Ça, ça fait partie aussi de nos missions. C'est ce qu'elles peuvent faire aussi avec chacun de nos partenaires.
D'accord.
C'est consulter un cabinet comptable, une agence de communication digitale aussi, une agence de référencement web ou ce genre de choses, les consulter pour des conseils, quoi.
En tout cas, ça a l'air assez intéressant parce que c'est varié. Tu n'as plus cette côté commercialisation en direct, en tout cas, mais plus la promotion, en fait, du lieu et des entreprises qui sont incubées, en fait.
Bah, c'est plus la promotion qui m'intéresse parce que tu as quand même une relation, pas client, mais tu sais, tu entretiens ton réseau,
oui.
Ton réseau de partenaires, entreprise partenaire, le réseau de start-up aussi, parce que finalement, tu fais la connaissance d'une start-up ou t'entends parler d'une start-up, mais voilà, nous au village, elles peuvent rentrer une fois qu'elles ont un produit, un service qui est commercialisable, qui est viable, donc post-incubation. Donc finalement, en fait, tu entres en relation avec une start-up et finalement, elles peuvent venir au village un an ou six mois après, tu vois, Donc c'est en fait c'est entretenir un portefeuille, même si j'aime pas ce terme parce que finalement je n'ai pas d'objectif quantitatif, mm-hmm. plutôt sur du qualitatif, voilà. Mais tu as quand même cette relation, enfin, je ne veux pas dire relation clientèle, mais tu as une relation
partenaire.
Ouais. Tu vois, c'est un peu du réseautage au quotidien en fait.
Oui. Effectivement, si j'ai bien compris par rapport à ce que tu dis, les startups postulent pour pouvoir entrer dans la structure et bénéficier de cet accompagnement. Ça dure à peu près combien de temps ? Elles y restent un an, deux ans, plus ?
Alors, de base, c'est 24 mois. Une fois qu'elles sont passées par la partie phase d'appel à candidature, dossier, comité de sélection, c'est 24 mois. Elles peuvent rester un an de plus. Et là, tu vois, en fait, on va fêter nos 3 ans et les 4 startups dont je te parlais du début, elles sont encore là, en fait.
D'accord.
Elles sont encore restées, elles ont fait l'année de plus. Et après, ben, c'est au cas par cas, parce que l'idée, c'est qu'elles puissent s'envoler de leurs propres ailes, enfin, voler de leurs propres ailes et pourquoi pas prendre des locaux à elles. Bon, après, c'est au cas par cas. Enfin, on a de la place au village. Comme je te disais, c'est 1600 m². On a encore de la place. On ne les fout pas à la porte, hein, clairement. Mais l'idée, c'est de garder un lien.
Ouais.
Garder un lien qui peut devenir commercial avec mes homologues du Crédit Agricole. Je ne parle pas forcément de compte bancaire, je parle plutôt de sourcer des solutions, que le Crédit Agricole devienne client ou fournisseur. Tu vois.
D'accord.
Des choses qui peuvent se créer comme ça. Mais là, pour le coup, ce n'est plus à la main de l'équipe village. Nous, on est vraiment, on a un lien avec elle qui n'est pas commercial. Justement, qui n'est pas financier, qui n'est pas, tu vois, qui est neutre, voilà.
En tout cas, on sent que tu as plein de choses très, 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 très variées, que ça a l'air de te plaire, en tout cas, tu es posée dans un poste aujourd'hui qui a l'air de te convenir.
Finalement, ça coche beaucoup de cases, tu vois, en retraçant mon parcours avec toi, je me rends compte que ça coche beaucoup de cases. C'est pas l'aspect commercial, mais l'aspect relationnel B2B, l'aspect communication, l'aspect événementiel, et encore une fois, ben moi j'apprends plein de choses, parce que accompagner des startups qui sont dans la e-santé ou dans la cybersécurité, il faut quand même, tu vois, moi souvent je m'acculture de leur marché finalement, et je suis un peu obligée, mais j'aime bien faire ça, donc ça m'arrive de temps en temps de suivre des MOOC sur des sujets de la cybersécurité pour les nuls, tu vois, je sais pas, je dis ça comme ça, mais il faut bien que je puisse parler avec elle et pas, enfin, faut que je puisse quand même avoir un niveau de connaissance qui soit cohérent avec ce que je peux leur apporter, ce que le village peut leur apporter.
Et du coup, ça t'ouvre plein plein de d'horizon en termes de secteur d'activité que tu découvres effectivement depuis que tu es dans le poste.
Oui, et puis finalement, tu vois, la question du début, les prétextes de discussion, quand on sait que je travaille avec des startups, c'est souvent, on me dit, bah dis-moi une innovation super que je connais pas, ou un truc bien et tout. Je sais pas, oui, il y en a plein, il y en a 15 en fait.
Oui, donc, bah oui.
Enfin, il y en a 15 que je connais très bien. Ouais. Après, il y en a plein d'autres. Ouais. Il y en a plein d'autres. Et puis, puis, il y en a beaucoup qui ne savent pas finalement qu'il y a des belles innovations qui ont beaucoup de succès et qui viennent de chez nous, quoi.
Et oui, c'est vrai que le grand public, on n'a pas forcément l'information. Et puis, on ne pense pas forcément que c'est à côté de chez nous, on va dire. Voilà, là, on est en Lorraine, à Nancy. Et on ne se dit pas que, oui, l'innovation peut aussi partir d'ici, d'une petite structure et qui, en fait, est très connue par le rôle des utilisateurs. Mais parce que nous, on n'est pas forcément les clients de ces entreprises-là. Et pourtant, ben, oui, elles fonctionnent bien. Ça marche.
Ben, oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est des belles histoires. Et puis, travailler aux côtés d'entrepreneurs, finalement, c'est aussi vivifiant, tu vois. C'est des personnes qui ont une notion du risque qui est différente de la mienne. Hein. Moi, je pourrais pas... Enfin, tu vois, j'ai toujours aimé le salariat, finalement, avoir un cadre. Mm-hmm. Un cadre, mais en même temps, dans lequel tu peux proposer pas mal de choses, tu vois. Enfin...
Avec une certaine liberté, en tout cas, d'action.
Ouais, c'est ça. Mais travailler aux côtés d'entrepreneurs, c'est... Ouais, c'est inspirant, quoi. Ils ont plein d'énergie, qui ont une embûche devant eux, et puis ben, tout de suite, ils sautent par-dessus, quoi. Ça t'apprend plein de choses aussi, hein, finalement.
Super. Ben, écoute, merci en tout cas de partager tout ça, tout ton parcours, parce qu'on voit bien comment tu as évolué, les choix que tu as faits, et ce vers quoi ça t'a emmené. Merci d'avoir pris ce temps-là pour le partager avec nous ce matin. Si tu veux bien, parce qu'on arrive quasiment finalement à une heure de conversation, tu vois, tranquillement.
Ouais, d'accord.
Poursuivre avec les quatre dernières questions que je pose à toutes mes invitées.
Oui.
Ben maintenant qu'on a fait le point sur ton parcours, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu ne retiens pas et pourquoi?
Alors, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, savoir s'adapter, c'est primordial, quoi. Tu vois, des décisions qu'on t'impose, un secteur d'activité auquel tu ne t'attendais pas, bah, s'adapter, ben, tu vois, oui, ces derniers mois, avec les contextes qu'on connaît, on a tous su et dû s'adapter.
Oui.
Donc moi, la qualité que je mets en premier, en fait, chez moi, finalement, c'est l'adaptabilité. C'est dur à dire. En fait. Adaptabilité, voilà. Ce que je ne retiendrai pas, finalement, pas grand-chose, parce que finalement... Les faux pas ou les erreurs, ça t'apprend toujours quelque chose. Mmh. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est quand même la vérité. Après, mon expérience au Décathlon, par exemple, je ne la retiendrai pas forcément.
Ça t'a permis quand même d'être active pendant trois mois parce que ça te correspond. Tu ne fais pas le choix de je profite d'une période de pause pour ne rien faire. Tu avais quand même l'objectif de rester...
Oui, après, même si c'était sur un emploi du temps un peu plus souple, hein, mais... Mais bon, c'est pas quelque chose que je laisse sur mon CV.
Alors ensuite, quel conseil est-ce que tu donnerais à l'adolescente que tu étais? Est-ce qu'à 15 ans, tu savais ce que tu voulais faire? Et avec le regard que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à Pauline quand elle avait 15 ans?
Le monde de la publicité et de la communication m'a toujours attirée, finalement. Donc même adolescente, j'aimais bien essayer d'analyser les publicités qui passaient à la télé.
Ouais.
Tu vois. En fait, moi, je dirais... qu'il faut s'écouter, quoi.
D'accord.
Qu'en fait, tout au fond de moi, j'avais envie de connaître un peu plus ce monde-là. Donc, au final, autour de moi, on avait une mauvaise image du monde de la pub, un peu, tu vois, 99 francs, ou tu vois, voilà.
Frédéric Beck BD, oui.
Voilà, pour la référence. Mais au final, maintenant, c'est pas ça. Enfin, une image où les stéréotypes ne font pas le métier du tout, hein, on est loin de tout ça. Donc, du coup, plutôt s'écouter. Écouter la petite voix qui te dit, ou même la petite voix qui te dit au fond de toi quand t'es pas bien dans une situation, qu'il y a un truc qui te va pas. Faut s'écouter. Faut changer un truc.
D'accord. Quel conseil tu donnerais à celle qui en ce moment hésite à changer de poste ou d'entreprise? Est-ce que ce que tu viens de dire pourrait aussi correspondre?
Ben, oui, au final, après, moi, ce que je fais aussi quand je me retrouve dans une situation où. Je sens qu'au fond de moi, il y a un petit paramètre qui ne va pas, etc. C'est que j'écris. Tu sais, bah, un petit peu le type de questions que tu me poses ou que tu es en train de poser, mais le mettre par écrit.
D'accord.
Et que finalement, ça t'aide à réfléchir, à formuler des mots. Souvent, moi, je ressors quelque chose, j'arrive à mettre le doigt sur le truc qui ne me va pas ou qui ne me correspond plus. Et puis, ce qui te correspond ben, à 20 ans ne te correspond pas forcément 15 années après.
Quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça permet en tout cas d'avoir un objectif et puis d'essayer d'avancer. Puis comme tu l'as dit là tout à l'heure, adolescente, il y avait déjà des choses dans ton métier d'aujourd'hui qui t'intéressaient en fait. Et tu as pris un chemin qui t'a permis d'aller explorer et puis de te poser exactement là où tu avais envie finalement aujourd'hui.
C'est ça, c'est ça.
Et dernière question, quel est ton prochain objectif professionnel et qu'as-tu besoin pour y arriver ? Alors, on a dit que ça va faire 4 ans que tu es là et que tu t'y plais. Alors, peut-être qu'il n'y a pas un objectif professionnel dans l'immédiat.
Non, bah non, justement, ce n'est pas trop le cas. Même si, tu vois, enfin, je fais partie d'un grand groupe, qui est le Crédit Agricole, qui a pas mal d'opportunités. Donc, je me dis que pourquoi pas, il y a sûrement quelque chose qui pourrait me correspondre dans un autre type de poste. Toujours en lien avec l'innovation, j'aimerais bien. J'aimerais bien garder ce lien à la fois avec la communication et l'innovation. Peut-être qu'il faudrait que je crée un autre poste, je ne sais pas. Mais, j'aimerais bien, oui, explorer un peu plus le groupe qui m'intéresse beaucoup, au final, pour leur action mutualiste, de solidarité, etc., et d'innovation. Parce que ce qui existe en termes d'innovation au groupe Crédit Agricole, les villages Baïsia font une partie des actions d'innovation, mais qu'une partie.
D'accord.
Il y a pas mal de choses à découvrir, donc pourquoi pas.
C'est l'avantage des grands groupes, ça donne des opportunités dont on s'aperçoit une fois qu'on est entré dedans. Donc là, maintenant que tu commences à bien le connaître, il y a peut-être aussi d'autres choses à découvrir, effectivement.
Ouais, voilà.
Écoute, je te remercie, Pauline, pour cette heure de discussion. Enfin, comme toutes les autres fois où j'ai discuté avec mes autres invités, c'était vraiment très intéressant de pouvoir écouter et bien comprendre en tout cas ton parcours et le métier que tu exerces aujourd'hui. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, je te dis à bientôt, en tout cas, certainement après l'été.
Bah, merci à toi, bel été et à bientôt.
À bientôt.
Puisque vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, j'espère que vous avez compris que vous pouvez saisir les opportunités qui se présentent à vous. Aujourd'hui, Pauline se sent prête à explorer le groupe dans lequel elle travaille. Écoutez ses conseils et réécoutez les précédents épisodes pour suivre les conseils de toutes nos invitées. J'espère que tous ces conseils vous donnent envie d'agir. Commencez par un pas et voyez où cela vous amène. Si après avoir écouté l'épisode, vous souhaitez contacter Pauline, vous pouvez passer par son profil LinkedIn à Pauline Le Bouleux. Un élément important, je vous rappelle que plus le podcast sera de vote 5 étoiles sur Apple Podcasts avec des commentaires, et plus nous aurons d'auditrices. Prenez une minute pour le faire et encore mille merci à vous. Dans cet épisode, vous trouverez toutes les idées fortes de la conversation, tous les liens pour contacter et suivre notre invité, le lien pour télécharger votre e-book offert et le lien de sondage pour transmettre vos idées et suggestions. Et enfin, retrouvez monprochainemploi.com sur Instagram pour tout savoir sur le podcast. Je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que vous partagez la même impatience que moi pour un prochain épisode. À bientôt !